Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Plus sur 104.3, l'émission préparée par Michel et Marie-Jo, l'heure flamande.
Et aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir la légende d'Alan Spierl et de son ami Lam Rudzak. Tout d'abord, on va bien sûr présenter son auteur, Charles de Coster. On a tous lu des extraits de cette légende quand on était enfant. De même, on a découvert certaines BD qui relatent les facéties de ce héros, Alan Spierl. Et donc aujourd'hui, eh bien, nous allons essayer de vous faire découvrir cette œuvre majeure de la littérature de Flandre. Alors Charles de Coster, il est né à Munich d'un père flamand, originaire de Ypres pour être exact. Il a comme mère une maman wallonne. Il est né le 27 août 1827. Très vite, il s'intéresse à des écrivains comme Rabelais, George Sand, Montaigne, Musset. À 17 ans, il rentre comme employé de banque à la Société Générale. On ne s'étonnera pas que cet esprit vagabond ne trouve pas vraiment de quoi s'éclater dans ce milieu bancaire où la fantaisie n'a guère sa place. Il démissionne d'ailleurs 6 ans plus tard et il entreprend à nouveau des études à l'âge de 23 ans. Seulement, voilà, reprendre des études, ça coûte cher et il faut trouver de l'argent pour les financer. Il fréquente l'université libre de Bruxelles. Sa passion, eh bien, reste la littérature et d'ailleurs en 1847, alors qu'il a tout juste 20 ans, il fonde avec plusieurs de ses amis une société littéraire qu'il nomme Les Joyeux. C'est dire, bien sûr, le thème qui les anime en choisissant un tel nom. Mais à l'époque, il travaille toujours en banque. Il n'arrive pas vraiment à cloisonner d'ailleurs sa vie d'employé de banque et celle d'écrire. Et donc, au bout de 6 ans d'activité dans la banque, il démissionne et il reprend ses études à Bruxelles. Ça ne veut pas dire entre nous que quand on est employé de banque, on manque de fantaisie. Hein. Simplement, certaines personnes ne savent pas toujours, bien sûr, cloisonner leurs activités. Il va d'ailleurs se lier d'amitié avec un certain Eugène Van Bemmel, qui est un jeune professeur. Celui-ci va lui permettre de rentrer dans un cercle d'auteurs, un cercle de relations littéraires. Charles de Coster tombe follement amoureux d'une jeune fille prénommée Elisa.
Palam pam, palam pam, palam pam, palam pam.
Voilà 2 ans que Perlala dormait dans le tombeau. Pas près de lui, la terre trembla. Quel était ce fléau? Sur sa fosse, on battait le tombeau dans un vacarme à vous rendre sourd. Faisons le mort des Perlala, faisons le mort, papa. Puis quand le tambour se fut tu, c'est le fusil qui claqua. Voilà des pierres qu'on se tue, il ne manquait plus que ça. Et tandis qu'il ne comprenait rien, il entendit crier citoyen. Qu'est-ce que c'est que ça des pulala, qu'est-ce que c'est que ça papa. Il partit dans les environs en cherchant à savoir. Passa de tous les parents et on le lui fit voir.
Il arriva devant le soldat de faction, et vers lui Pierre s'avança sans prêter attention. Qui dit, entendit-il en français, alors qu'il s'apprêtait à passer. Mettez-toi donc, bipilala, mettez-toi donc, papa.
Et Pierre ajouta, mon ami, quoi de ces citoyens qui parlent le français parmi, sont tous des gens de rien. Ils ont des têtes de croque-morts qui font rigoler. Tu vois, j'en ris des pilala, tu vois, j'en ris, papa. Et Pierre rentra dans sa tombe sans même se retourner.
Birlala, interprété par Marie Kunbart, un chant de Flandre maritime. Vous êtes à l'écoute de L'Heure Flamande, émission préparée par Michel et Marie-Jo sur Radio Plus 104.3.
Et que vous pouvez aussi bien sûr écouter sur www.radioplus.fr. Et donc aujourd'hui, nous abordons donc la légende de Lönnspirel et de son ami Lame Rudzak, écrit par Charles de Coster. Et donc Charles de Coster, qui est né en 1827, a été très vite attiré donc par la littérature. Il a certes travaillé pendant quelques années dans une banque, mais au bout de 6 ans, il a donné sa démission. Charles de Coster ici tombe follement amoureux d'une jeune fille au prénom de Elisa. Ça sera une véritable passion, mais voilà, le papa d'Elisa ne voit pas ça d'un bon œil. Et pourquoi? Bah, tout simplement parce que son père, le père d'Elisa, eh bien, il estime que le prétendant à sa fille n'a pas beaucoup d'avenir. C'est un joyeux luron, il est pas très sérieux. Et ce monsieur donc souhaite bien sûr que sa fille épouse quelqu'un qui ait une situation plus honorable et puis surtout plus confortable financièrement. Au bout de 7 ans, d'ailleurs, sous la pression de ce père, eh bien, le couple va éclater et Charles de Coster en sera profondément affecté. Il en gardera d'ailleurs une plaie douloureuse tout au long de sa vie. À ces difficultés de vie amoureuse, eh bien, évidemment, ce ne sont pas sans conséquences sur ses études qu'il avait repris et malheureusement, eh bien, il subira des échecs aussi dans ses études et Charles de Coster sombre alors dans une profonde mélancolie. Il gagne médiocrement sa vie, il en souffre beaucoup d'ailleurs, parce qu'il sait bien que s'il avait un peu plus d'argent, eh bien, il aurait pu garder, bien sûr, l'amour de sa vie, Elisa. Un autre drame va marquer profondément sa vie, c'est celui qui affecte sa sœur Caroline. Caroline, elle est victime d'un escroc au mariage, et ce dernier, c'est un officier de l'armée royale. Charles de Coster le provoque d'ailleurs en duel pour laver l'affront. Mais ce duel sera annulé, les autorités militaires ayant exclu cet officier indélicat de ses rangs. Si Charles de Coster ne gagne pas beaucoup d'argent, il travaille néanmoins beaucoup. Il collabore à une revue au nom prédestiné de Eulenspiegel, de son ami Félicien Rops, qui est un graveur très renommé à l'époque. C'est une revue qui participe en particulier beaucoup au débat politique et qui défend en particulier une conception du libéralisme progressiste. Il publie en 1858 sa première œuvre, Les Légendes flamandes.
De kriekroe zene zingt zachtjes in het nest dat God naar gebouwd heeft en t'avond gebest. Van balken en bomen en banken zat blauw, van domen naar dampen en dompen per schrouw. Daar zingt ze gestadig alle schranken naartoe, door de hossen, de zonne gaan slapen. Ze is moe, de rogen die lijden met zoveel geweld, zijn dood van een vaak nu aan ieder geveld. De roer is gewompeld, de kroonen en de staf. Naar beste juweren zijn al te malaf. Zij nadert zo'n diepte dat niemand ziet. Ze schuift de gardinen, ze legt in haar sleet. De nacht komt ze dekken en duffelen haar zet. Het mondje om te waken recht over haar bed. Goedenavond, o zonne, goedenacht, u straal. God zegne, bewaar het in onze te mal.
Edmond Vanni, vous interprétez une chanson en langue régionale flamande, c'est-à-dire un texte mis en chanson du poète Rido Rezele.
Donc vous êtes à l'écoute de l'émission L'heure flamande avec comme sujet aujourd'hui la légende d'Alain Spirel de Charles de Coster, donc sur les ondes de Radio Plus 104.3. Donc Charles de Coster publie donc en 1858 son premier ouvrage important, Les légendes flamandes, où l'on retrouve un ton très rabelaisien. Il aime écrire en vieux français, dit-il, car il estime que celui-ci est beaucoup plus proche du flamand. Pourquoi écrit-il en français ? Eh bien, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Hein. Il faut savoir que la Belgique n'existe que depuis 1830. Donc Charles de Coster publie son ouvrage en 1858. C'est dire que le royaume belge n'existe que depuis 20 ans. Et en ce temps-là, seul le français est reconnu comme langue officielle. La classe dirigeante, d'ailleurs, en Belgique est francophone. Le sud du pays, que l'on désigne la Wallonie, est à l'époque plutôt riche grâce à ses nombreuses industries, sidérurgiques en particulier, mais aussi textiles, tandis que la Flandre est rurale, elle est peu riche, hormis des petites entreprises, hormis certains îlots comme Anvers, mais la bourgeoisie, là aussi anversoise, s'exprime essentiellement en français, et pour preuve, notre ami l'auteur Émile Verhaeren a écrit ses poèmes essentiellement en français, et Henri Conscience pareil. Ce ne les empêche pas de défendre viscéralement l'identité flamande. Pour rappel, ce conflit linguistique qui a affecté pendant plusieurs décennies donc le royaume de Belgique, il faut savoir que la constitution belge n'a jamais été traduite qu'en néerlandais qu'en 1898. Donc c'est dire 40 ans après la publication des légendes flamandes de Charles de Coster. Ce travail d'écriture, ça passionne notre Charles de Coster, qui veut consacrer toute sa vie à l'écriture. De 1860 à 1864, il occupe d'ailleurs un poste de secrétaire à la Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances. Ce travail va d'ailleurs lui permettre de plonger dans les archives des procès en sorcellerie en particulier, et qui va être une source d'inspiration pour écrire la légende de l'Alain Spirel. Il travaille aussi sur le fanatisme religieux à travers l'histoire. En 1861, il publie Les Contes Brabançons. Par contre, cette œuvre ne va pas connaître un grand succès. Il en est d'ailleurs très affecté. En 1867, il publie La légende d'Alain Spirel. Il en attend beaucoup.
Des nul diop de Barabamzat, des nul diop de Barabamzat, un bon voisin homme dans autre rancade, voici me donner le bon farinola, un bon voisin homme dans autre rancade, des nul viva, des nul des chouettes, des nul de drôme, des nul des chouettes, des nul de drôme, un vieux fabôme, bon de bombe, voici me donner le bon farinola, un vieux fabôme, bon de bombe, des nul viva, trois ordres d'analyse et poche brac, trois ordres d'analyse et poche brac, le promenade mené en nazac, passez me donner le bon farinola, le promenade mené en nazac, de nul viva, me drogen hem toen dan de dokter, me drogen hem toen dan de dokter, en me vrouw die kwam mezelf voor, passez me donner le bon farinola, en me vrouw die kwam mezelf voor, de nul viva, me trokken hem wel zes onze bloed, me trokken hem wel zes onze bloed, des jammer dat die sterven moet, als hij me dan in een bofarilola, jammer dat die sterven moet, de nul viva, de nul viva. Der nüll di ob de parabamsa, der nüll di ob de parabamsa, hab ob es an uns aus der Ranka, was immer doch der ne war fari lola, hab ob es an uns aus der Ranka, der nüll viva, der nüll viva.
Joël et Claire, je vous interprétais une chanson flamande traditionnelle, et le titre est de circonstance, Den Uyl.
Alors donc Charles de Coster, eh bien donc publie donc en 1861 les Contes brabançons qui connaissent pas de réel succès. Quelques années plus tard, il publie la Légende de l'Inspirel dont il attend beaucoup, mais hélas le succès n'est pas au rendez-vous. Et d'ailleurs, l'auteur ne connaîtra jamais de succès malgré la masse de travail que a demandé la rédaction de cette légende de l'Inspirel. En 1870, il devient répétiteur à l'école royale militaire, mais son salaire reste malheureusement médiocre, il n'arrive pas vraiment à faire face à ses dépenses, si bien que Charles de Coster s'endette de plus en plus. Il s'épuise dans de nombreuses tâches d'écriture, il collabore à de nombreux journaux, il essaie de survivre au mieux par l'écriture, mais malheureusement il ne connaîtra jamais vraiment de succès de son vivant. Il meurt à Ixelles le 7 mai 1879, il n'a alors que 52 ans. Interpréter un texte d'André Devinck nommé Schrein. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande, émission préparée par Michel et Marie-Jo sur Radio Plus 104.3. Donc Charles de Coster décède donc le 7 mai 1879, il n'a alors que 52 ans. Son ouvrage, La légende de l'Inspirel et de son ami Lam Rudzak, n'a pas connu donc de succès de son vivant. Et pourtant, c'est un ouvrage que l'on peut appeler d'abouti. En effet, c'est un ouvrage qui a été travaillé sur plusieurs années. L'auteur a modifié, a corrigé la rédaction de ce livre pour arriver à ce qu'on connaît tous aujourd'hui et que nous allons vous inviter dans quelques instants à découvrir quelques pages. Le héros de cet ouvrage n'est pas une pure invention de l'auteur. En effet, Till, en néerlandais, existe déjà en Allemagne, en particulier au XVe siècle. N'oublions pas que Charles de Coster est né à Munich, d'un père flamand. Sa mère avait un oncle qui exerçait un poste important dans la hiérarchie catholique en Bavière. Et donc, le personnage de Till était déjà connu dans toute l'Allemagne et aussi déjà aussi en Flandre et aux Pays-Bas. Mais le héros Till va surtout connaître un grand succès au cours du XVIIe siècle en Flandre. Et d'ailleurs, la Flandre va prétendre, bien sûr, que le héros, Till Eulenspiegel, il est né dans une bourgade dans la banlieue de Bruges, dans la ville de Dam. Et d'ailleurs, nous allons écouter ici la naissance donc de ce héros, Till Eulenspiegel, qui est né à Dam.
À Dam, en Flandre, quand mai ouvrait leurs fleurs aux aubépines, naquit Eulenspiegel, fils de classe. Une commère sage-femme et nommée Catheline l'enveloppa de l'ange chaud et lui ayant regardé la tête, y montra une peau. Coiffée, née sous une bonne étoile, dit-elle joyeusement. Mais bientôt, se lamentant et désignant un petit point noir sur l'épaule de l'enfant, « Hélas, pleura-t-elle, c'est la noire marque du doigt du diable. »« Monsieur Satan, reprit Classe, s'est levé de bien bonne heure qu'il a déjà eu le temps de marquer mon fils. »« Il n'était pas couché, dit Kathleen, car voici seulement Chanteclerc qui éveille les poules. » Et elle sortit, mettant l'enfant aux mains de Classe. Puis l'aube creva les nuages nocturnes, les hirondelles rasèrent en criant les prairies, et le soleil montra pourpre à l'horizon sa face éblouissante. Classe ouvrit la fenêtre et parlant à Eulenspiegel, « Fils coiffé, dit-il, voici mon seigneur du soleil qui vient saluer la terre de Flandre. Regarde-le quand tu le pourras, et quand, plus tard, tu seras empêtré en quelques doutes, ne sachant ce qu'il faut faire pour agir bien, demande-lui conseil. » Il est clair et chaud, sois sincère comme il est clair et bon comme il est chaud. Classe, mon homme, dit Zotkin, tu prêches à sourd. Viens voir mon fils. Et la mère offrit au nouveau-né ses beaux flocons de nature.
Et donc, Till est né à Dam, dans une cité toute proche de Bruges. Une cité que je vous invite bien sûr à visiter. Till Eulenspiegel, il est né aussi dans un contexte bien particulier, un autre enfant né à peu près à la même époque. Et donc c'est le futur roi Philippe qui sera de sinistre mémoire un persécuteur en Flandre. Écoutons ce texte annonçant donc la naissance de ces deux enfants.
Deux enfants telés sont nés, l'un en Espagne, c'est l'infant Philippe, et l'autre en pays de Flandre, c'est le fils de Classe, qui sera plus tard surnommé Eulenspiegel. Philippe deviendra bourreau, ayant été engendré par Charles Ve, meurtrier de nos pays. Eulenspiegel sera grand docteur en joyeux propos et batifolement de jeunesse, mais il aura le cœur bon, ayant eu pour père Classe, le vaillant manouvrier, sachant en toute braveté, honnêteté et douceur gagner son pain. Charles empereur et Philippe roi chevaucheront par la vie, faisant le mal par bataille, exaction en notre crime. Classe, travaillant toute la semaine, vivant suivant droit et loi, et riant au lieu de pleurer en ses durs labeurs, sera le modèle des bons manouvriers de Flandre.
Der drijf der rustig schip voorbij, een schip van oud en ijzer. Je doopte mijn wijn of mijn champagne. Daar kunnen geen of keizer. Het schip is oud, zijn eerste reis. Dat is te lang vergeten. Alleen de sterren die er stonden, die zullen dan nog weten. Na drijft stil onder de maan, gevangen in de boren. Daar is maar een lanterolom, de rijderij moet sporen. Maar door het schijnsel van een star, waar het zo overgoten, dat al de masten en de schaar volle zilver zijn gespoten. En komt de morgen in de lucht en vloeken dan de meeuwen, dan laat het schip zijn kleuren zingen en de matrozen geven. Ze blazen de lanterenlood en al de starren pinken. Naar die verroeste kargaboot, die nooit hij willen zinken. De Nielen dag trekt zijn boog, na witte weg in het water. Gelijk een grote bob de ploeg en zoveel tijd vergoot er. Dat het ineens weer donker is en dat de starre pinken naar de ijzeren verdoemen is, die nooit hij willen zinken.
Radio Plus 104.3, vous êtes à l'écoute donc de l'émission préparée par Marie-Jo et Michel, l'heure flamande. Et aujourd'hui, nous évoquons donc la légende d'Alain Spiral et de son ami Lem Rudzak par Charles de Coster. Nous vous donnons donc ici, en deuxième partie de cette émission, la lecture de plusieurs extraits de cet ouvrage majeur. Nous avons donc découvert que Tail est né à Dame, et en même temps que malheureusement un tyran, le roi Philippe d'Espagne. Mais à propos, d'où vient le nom de Alain Spirel qui a été donné donc à notre héros Tail?
On portait Ulan Spirel à baptême. Soudain,
Donc c'est page 25. D'où vient le nom de Tail? Alors juste quelques instants, le temps de retour. Voilà.
Daar zat een mooi maagd al voor haar deur.
Daar zat een mooi maagd al voor haar deur.
Passeerde daar een Spanjaard deur.
Ram, pam, pam, jori, fa, la, la.
Passeerde daar een Spanjaard deur.
Jori, fa, la, 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 la.
Wel, dochter, is uw moeder thuis?
Wel, dochter, is uw moeder thuis?
O ja, Spanjaard, kom maar in huis.
Ram, pam, pam, jori, fa, la, la.
O ja, Spanjaard, kom maar in huis.
Jori, fa, la, 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 la.
Wel, dochter, zet hem daar een stoel.
Wel, dochter, zet hem
Wel dochter maakt een beddeken net.
Wel dochter maakt een beddeken net.
Voor die Spanjaard met zijn brunet.
Ram, plam, plam, loli, fa, la, la.
Voor die Spanjaard met zijn brunet.
Loli, fa, la, 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 li, la, la, la.
Toen hoorde hij de trommel slaan.
Toen hoorde hij de trommel slaan.
En hij zei, schoon lief moet hier vandaan.
Ram, plam, plam, loli, fa, la, la.
En hij zei, schoon lief moet hier vandaan.
Lollifa, la, 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 li, la, la, la.
Als hij zijn werk al had gedaan.
Als hij zijn werk al had gedaan.
Toen wou hij terug naar Spanje gaan.
Ram, pam, pam, lollifa, la, la.
Toen wou hij terug naar Spanje gaan.
Lollifa, la, 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 li, la.
Zij ging nog mee tot uit de stad.
Zij ging nog mee tot uit de stad.
Daar kreeg ze nog een stamp in haar gat.
Ram, pam, pam, lolli, fa, la, la.
Daar kreeg ze nog een stamp in haar gat.
Lolli, fa, la, 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 li, la, la, la.
Wel, dochter, dat is ene keer.
Wel, dochter, dat is ene keer.
Toch nooit een Spanjaard meer.
Ram, plam, plam, lolli, fa, la, la.
Geloof toch nooit een Spanjaard meer.
Lolli, fa, la, la, li, la, la, la.
Radio Plus 104.3, donc vous êtes à l'écoute de l'émission L'Heure Flamande, donc préparée par Marie-Jo et Michel. Et donc Thiel nous a joué un petit tour tout à l'heure en nous enlevant le marque-page pour nous donner la lecture d'où vient le nom de Thiel. Ah, sacré Thiel, c'est un farceur.
À 15 ans, Ulen Spirol éleva Adam sur 4 pieux, une petite tente, et il cria que chacun y pourrait voir désormais, représenté dans un beau cadre de foin, son être présent et futur. Quand survenait un homme de loi, bien morgant et enflé de son importance, Eulenspiegel passait la tête hors du cadre et, contrefaisant le museau de quelques singes antiques, disait « Vieux mufle peut pourrir, mais fleurir, non. Ne suis-je point bien votre miroir, monsieur de la trogne doctorale ?» S'il avait pour chaland un robuste soudard, Eulenspiegel se cachait et montrait au lieu de son visage, au milieu du cadre, une grosse platelée de viande et de pain, et disait « La bataille fera de toi potage. Que me bailles-tu pour ma pronostication, au soudard chéri des sacres à grosse gueule ?» Quand un vieil homme, portant sa gloire, sans gloire sa tête chenue, amenait à Eulenspiegel sa femme, jeune commère, celui-ci, se cachant comme il l'avait fait pour le soudard, montrait dans le cadre un petit arbuste, aux branches desquelles, duquel étaient accrochées des manches de couteau, des coffrets, des peignes, des écritoires, le tout en corne, et s'écriait. D'où viennent ces beaux brimborions, messire? N'est-ce point du cornier qui croit en déant le clos des vieux maris? Qui dira maintenant que les cocus sont des gens inutiles en une république? Et Eulenspiegel montrait dans le cadre à côté de l'arbuste son jeune visage. Le vieil homme, en l'entendant, toussait de malheurage, mais la mignonne le calmait de la main et, souriant, venait à Eulenspiegel. « Et mon miroir, disait-elle, me le montreras-tu ? » « Viens plus près, répondit Eulenspiegel. » Elle obéissait, lui alors la baisant où il pouvait. « Ton miroir, disait-il, ces rois de jeunesse demeurant Esbargetorten. » Et la mignonne s'en allait aussi, non sans lui avoir baillé un ou deux florins. Au moine gras et lipu, qui lui demandait de voir son être présent et futur représenté, Eulenspiegel répondait « Tu es armoire à jambon. Aussi seras-tu cellier à cervoise, car c'est l'appel buverie, n'est-ce pas vrai, grosse bedaine ? Donne-moi un patard pour n'avoir pas menti.
Mon fils, répondait le moine, nous ne portons jamais d'argent.
C'est donc que l'argent te porte, répondait Eulenspiegel, car je sais bien que tu le mets entre deux semelles sous tes pieds. Donne-moi ta sandale.
Mais le moine, mon fils, c'est le bien du couvent. J'en tirerai toutefois, s'il le faut, deux patards pour ta peine.
Le moine les donna. Eulenspiegel les reçut gracieusement. Ainsi montraient-ils leur miroir à ceux de Dames, de Bruges, de Blankenberg, voire même de Stand. Et au lieu de leur dire en son langage flamand « Ich ben u, Eulenspiegel, je suis votre miroir », il leur disait, abréviant « Ich ben Eulenspiegel ». Ainsi que cela se dit encore présentement dans l'Ost et la Ouest Flandre. Et de là lui vint son surnom d'Eulenspiegel.
Ik zal nooit helemaal begrijpen waarom in meer dan een chanson de goeie regen werd verwijten dat hem treurig is en grijs en dat hem de ruppel die langs aard zijn kille woorden. De regen is toch een verkoeling, op het glooiend verf van zo val. Des morgens komen uit de kroegen, overspannen van de zorg. En lege pers starten van spoken al te jagen. Ook is de regen een verbinding tussen het water en de stad. Ik reek de golven en de vissen, want de zee komt dichterbij. In het land van Wazoer ik de koeien duidelijk looien. De regen waast op de kasseien, totdat ze glanzen lag de maan. En te worden spiegels van de hemel en er bruist een oceaan. In iedere steen die op uw wandeling zich glooien. De regen spoelt door mijn gedachten, de dag begint van veraf om. Met splinterneefje was ze stroten, in de stad voelt leven dan. Ze riekt naar zee weer in vertuidelijke mossen. Ik zal nooit helemaal begrijpen waarom in meer dan een chanson de goeie regen werd verwijten dat hem te ruig is en grijs en dat hem de ruppel die langs aard zijn kille woorden.
Radio Plus 104.3, donc vous êtes à l'écoute de l'émission L'Heure Flamande et nous avons comme thème aujourd'hui la légende de l'Eulenspiegel de Charles de Coster. Donc vous avez découvert pourquoi Tail se nomme Eulenspiegel et notre ami, eh bien, comme tout bon chrétien de l'époque, eh bien, il va être bien sûr baptisé. Écoutons ces quelques lignes ici à propos du baptême de Tail.
On portait Eulenspiegel à baptême. Soudain chut une averse qui le mouilla bien. Ainsi fut-il baptisé pour la première fois. Quand il entra dans l'église, il fut dit aux parrains et marraines, père et mère, par le beau dos,
Schulmeister, maître d'école, qu'ils eussent à se placer autour de la piscine baptismale, ce qu'ils firent. Mais il y avait à la voûte au-dessus de la piscine un trou fait par un maçon pour y suspendre une lampe à une étoile en bois doré. Le maçon, considérant d'en haut les parrains et marraines, debout roidement autour de la piscine coiffée de son couvercle, versa par le trou de la voûte un traître seau d'eau qui, tombant entre eux sur le couvercle de la piscine, fit grand éclaboussement. Mais Eulenspiegel eut la plus grosse part, et ainsi il fut baptisé pour la deuxième fois. Le doyen vint, ils se plaignirent à lui, mais il leur dit de se hâter, que c'était un accident. Eulenspiegel se démenait à cause de l'eau tombée sur lui. Le doyen lui donna le sel et l'eau, et le nomma Tilbert, qui veut dire « riche en mouvement ». Il fut ainsi baptisé pour la troisième fois. Sortant de Notre-Dame, ils entrèrent vis-à-vis de l'église dans la rue Longue, au rosaire des bouteilles, dont une cruche formait le credo. Ils y burent 17 pintes de Doppelkeut et davantage, car c'était la vraie façon en Flandre, pour sécher les gens mouillés, d'allumer un feu de bière en la bedaine. Eulenspiegel fut ainsi baptisé pour la quatrième fois. S'en retournant au logis et zigzaguant par le chemin, la tête plus que le corps pesante, ils vinrent à un ponton jeté sur une petite mare. Kathleen, qui était marraine, portait l'enfant. Elle fit un faux pas et tomba dans la boue avec Eulenspiegel, qui fut ainsi baptisé pour la cinquième fois. Mais on le retira de la mare pour le laver d'eau chaude en la maison de classe, et ce fut son sixième baptême.
Avouez quand même que c'est pas ordinaire. Notre ami Tell, bien sûr, avec toutes ses facéties, attire bien sûr la réprobation des autorités, et c'est ainsi que Tell se retrouve dans une mauvaise posture. Et nous allons donc écouter ici cet extrait où Tell se trouve dans une situation bien dramatique.
L'empereur lui dit qu'il allait être pendu. Le portier de la ville dit que c'était bien fait. Et les bourgmestres furent si terrifiés de cette sentence qu'ils ne répondirent mot, ni pour l'approuver, ni pour y contredire. Le bourreau et ses apechers furent mandés. Ils vinrent, porteurs d'une échelle et d'une corde neuve, saisir au collet Eulenspiegel, qui marcha devant les 100 reiters de Cornjuin, en se tenant quoi et disant ses prières. Mais eux se gaussaient de lui amèrement. Le peuple qui suivait disait « C'est une bien grande cruauté de mettre assis un mort, un pauvre jeune garçon, pour une si légère faute. » Et les tisserands étaient là en grand nombre et en armes et disaient « Nous ne laisserons point pendre Eulenspiegel, ce serait contraire à la loi de Donard. » Cependant, on vint au champ de potence. Eulenspiegel fut hissé sur l'échelle, et le bourreau lui mit la corde. Les tisserands affluaient autour de la potence. Le prévôt était là, à cheval, appuyant sur l'épaule de sa monture la verge de justice, avec laquelle il devait, sur l'ordre de l'empereur, donner le signal de l'exécution. Tout le peuple criait, assemblé. « Grâce, grâce pour Eulenspiegel !» Eulenspiegel, sur son échelle, disait « Pitié, gracieux Seigneur, gracieux empereur !» L'empereur éleva la main et dit « Si ce vaurien me demande une chose que je ne puisse faire, il aura la vie sauve. »« Parle !» Eulenspiegel cria le peuple. Les femmes pleuraient et disaient « Il ne pourra rien demander, le petit homme, car l'empereur peut tout. » Et tous de dire « Parle, Eulenspiegel !» Sainte Majesté, dit Eulenspiegel, je ne vous demanderai ni de l'argent, ni des terres, ni la vie, mais seulement une chose pour laquelle vous ne me ferez, si je l'ose dire, ni fouetter, ni rouer, avant que je m'en aille au pays des âmes. Je te le promets, dit l'empereur. Majesté, dit Eulenspiegel, Je demande qu'avant que je sois pendu, vous veniez baiser la bouche par laquelle je ne parle pas le flamand. » L'empereur, riant ainsi que tout le peuple, répondit : « Je ne puis faire ce que tu demandes, et tu ne seras point pendu, jeune Spirel. » Mais il condamna les bourgmestres et échevins à porter pendant 6 mois des besicles derrière la tête, afin, dit-il, que si ce dos de narde ne voit pas par devant, il puisse au moins voir par derrière. Et par décret impérial, ces besicles se voient encore dans les armes de la ville. Et Eulenspirol s'en fut modestement, avec un petit sac d'argent que lui avaient donné les femmes.
Voilà, donc toute la facétie de notre ami Tail. Naturellement, l'auteur situe l'action dans une période très trouble de Flandre où, malheureusement, c'est la répression, la lutte anti-religieuse, en particulier contre la nouvelle religion. Et ici, nous allons donc écouter une page qui est assez dramatique sur la période sombre de Flandre.
Les pays avaient conquis leurs privilèges à force d'argent donné à des princes besogneux. Ces privilèges sont confisqués. Ils avaient espéré, d'après les contrats passés entre eux et les souverains, jouir de la richesse fruit de leurs travaux. Ils se trompent. Le maçon bâtit pour l'incendie, le manouvrier travaille pour le voleur. Le roi hérite. Sang et larmes, la mort fauche sur les bûchers, sur les arbres servant de protance le long des routes, dans les fosses ouvertes où sont jetées vivantes de pauvres fillettes, dans les noyades des prisons, dans les cercles de fagots enflammés au milieu desquels brûlent à petit feu les patients, dans les huttes de paille en feu où les victimes meurent dans la flamme et la fumée. Le roi hérite. Ainsi l'a voulu le pape de Rome. Les villes regorgent d'espions, attendant leur part du bien des victimes. Plus on est riche, plus on est coupable. Le roi hérite. Mais les vaillants hommes du pays ne se laisseront point égorger comme des agneaux. Parmi ceux qui fuient, il en est d'armées qui se réfugient dans les bois. Les moines les avaient dénoncés afin qu'on les tuât et qu'on prît leurs biens. Aussi la nuit, le jour par bande, comme des fauves, ils se ruent sur les cloîtres, ils reprennent l'argent volé au pauvre peuple sous forme de chandeliers, de chasses d'or et d'argent, de ciboires, de patènes, de vases précieux. N'est-ce pas, bons hommes? Ils y boivent le vin que les moines gardaient pour eux seuls. Les vases fondus ou engagés serviront pour la guerre sainte. Vive le gueux! Ils harcèlent les soldats du roi, les tuent, les dépouillent, puis s'enfuient dans leurs tanières. On voit jour et nuit dans les bois s'allumer et s'éteindre des feux nocturnes, changeant sans cesse de place, c'est le feu de nos festins, à nous le gibier de poils et de plumes. Nous sommes seigneurs. Les paysans nous donnent du pain et du lard quand nous voulons. L'âme, regarde-les, loqueteux, farouches, résolus et l'œil fier. Ils errent dans les bois avec leurs raches, hallebardes, longues épées, braquemars, piques, lances, arbalètes, arquebuses, car toutes armes leur sont bonnes, et ils ne veulent point marcher sous des enseignes. Vive le gueux! Et Eulenspirol chanta: Slap o den trommel van dir domdein, slat o den trommel van dir dum dum. Battez le tambour, van dir domdein, battez le tambour de guerre. Qu'on arrache au duc ses entrailles, qu'on lui fouette le visage, slat om den trommel, battez le tambour. Que le duc soit maudit, à mort le meurtrier. Qu'il soit livré au chien, à mort le bourreau, vive le gueux. Qu'il soit pendu par la langue et par le bras et par la langue qui commande et par le bras qui signe l'arrêt de mort, slap om den trommel. Battez le tambour de guerre. Vive le gueux. Que le duc soit enfermé vivant avec les cadavres des victimes. Que dans la puanteur il meure dans la peste des morts. Battez le tambour de guerre. Vive le gueux. Christ, regarde en haut tes soldats, risquant le feu, la corde, le glaive pour ta parole. Ils veulent la délivrance de la terre des pères. Slat om den trommel van dir domdein. Battez le tambour de guerre, vive le gueux. Et tous de boire et de crier, vive le gueux.
et Eulenspiegel, buvant dans le hanap doré d'un moine, regardait avec fierté les faces vaillantes des gueux sauvages. « Homme fauve, dit-il, vous êtes loup, lion, tigre. Mangez les chiens du roi de sang. Vive le gueux, dirent-ils en chantant. Slat om den trommel van dir dom dein, slat om den trommel van dir dom dom, battez le tambour de guerre, vive le gueux. »
Et nous espérons ici l'émission touche à sa fin. Eh bien, nous espérons que vous avez aimé ces extraits et que nous invitons bien sûr à découvrir en lisant donc l'œuvre de Charles de Coster, la légende de l'Espirole et de son ami Lam Rudzak. Nous vous souhaitons une bonne semaine.